Donc Jean-Pierre, tu es urbaniste et sociologue.
Disons que j'ai une thèse d'urbanisme, j'ai travaillé dans l'aménagement et l'urbanisme, aussi bien à Paris au schéma directeur de la région parisienne qu'à Cuba au plan directeur de la Havane. Mais disons que depuis plusieurs décennies, j'étais ensuite enseignant et chercheur dans l'urbain ou sur
D'accord.
l'urbain.
Ok. Merci de la précision. Du coup, je voudrais peut-être, on va commencer à détailler les thèmes du journal et puis tu réagiras quand tu
D'accord,
voudras.
oui.
On va commencer, Philippe. Je te propose de travailler sur un premier thème, la ville participative. On va tourner les pages, on va se tourner vers un article qui m'a bien interrogé, qui est en ouverture, et c'est assez rare pour être signalé. C'est l'histoire d'une ville faite par et pour les hommes. Un article, une contribution d'Yves Rebaud. Alors c'est un chercheur, donc géographe, maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne, et qui expliquait que par rapport notamment aux équipements sportifs, il est courant d'entendre que les équipements sportifs sont faits pour tous et qu'ils ne tiennent qu'aux femmes de s'en emparer. On entend dire de même qu'il est de la responsabilité des femmes de s'adapter et non aux nouvelles pratiques, de s'interroger sur la discrimination qu'elles provoquent. Le constat, c'est que les femmes ont moins d'emprise sur la ville que les hommes. Ce phénomène n'est jamais pris en compte et les innovations apportées à la ville ne compensent pas, loin s'en faut, ces inégalités. Alors, Philippe, si tu veux réagir peut-être sur ce sujet?
Oui, bien sûr, c'est une des premiers facteurs d'exclusion en fait de certains individus, comme le disait le reportage précédent. On parle aussi de ces phénomènes d'embourgeoisement des centres-villes, de ce qu'on appelle gentrification. Mais il y a aussi des disparitions invisibles dans les villes, c'est-à-dire que les villes appartiennent uniquement aux hommes. Et Vrebo le dit très bien, les femmes sont exclues de plusieurs postes de responsabilité dans les villes. Il y a très peu de femmes dans les services techniques, il y a très peu de femmes architectes ou urbanistes.
Tu confirmes, Jean-Pierre?
Oui, j'entends.
Et est-ce que tu confirmes cette idée selon laquelle les femmes sont assez absentes des postes à responsabilité?
Bah, disons que d'une manière générale en France, plus on monte dans la hiérarchie, quel que soit le domaine, moins la proportion des femmes est élevée. C'est un phénomène général, ça ne s'applique pas seulement à l'urbanisme et à l'aménagement.
Oui, mais on le retrouve aussi, quoi.
Oui, on le retrouve, je veux dire qu'il n'y a pas de miracle. Encore que ça n'est pas pour moi le vrai problème. Je crois que le problème, c'est celui des rapports entre les instances dirigeantes, les gestionnaires, les décideurs et la base. Parce qu'on pourrait imaginer, disons, une société où 50% des femmes seraient à des postes de décision ou de direction, mettons, dans l'aménagement et l'urbanisme. Mais si la hiérarchie se maintient, ça ne sera pas plus démocratique pour autant. C'est un petit peu comme si vous me disiez, Margaret Thatcher a été Premier ministre en Angleterre. On voit ce que ça a donné. Je crois que tant qu'on ne remet pas en cause la division du travail entre ceux qui décident et puis ceux qui n'ont qu'un pouvoir de décision, moi, je suis par principe, effectivement, pour l'égalité entre hommes-femmes, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que ce sera plus démocratique concernant la prise de décision, c'est-à-dire les rapports entre les classes populaires et les décideurs qui, en général, appartiennent, disons, à la petite bourgeoisie intellectuelle, ou à un capital scolaire assez élevé, et ont des méthodes de direction tout aussi autocratiques que, quel que soit leur siège, comment dirais-je, quel que soit leur sexe, ou leur genre, faut utiliser le terme convenu.
Mais alors,
il suffit de voir ce qui se passe à l'université. Les sociologues de sexe féminin sont tout aussi, hiérarchiquement imbus de leur position, si elles ont des postes de direction, que les hommes.
Mais alors, est-ce que moi, Jean-Pierre, de te couper, mais c'est que là, le questionnement, ce n'est pas uniquement sur les postes de direction, mais c'est sur la place dans l'ensemble de la ville des femmes. Et effectivement, quand on regarde l'urbain, il y a déjà toute la question des personnes qui ont peur, la peur des agressions, les zones de danger pour les femmes, parce qu'elles elles sont en danger face à des hommes qui peuvent se comporter comme prédateurs sexuels parfois, et aussi des zones de ville qui sont, ou des équipements sportifs qui sont conçus exclusivement pour des hommes, parce que c'est des pratiques attribuées aux hommes, etc. Et donc c'est surtout ça, c'est que la ville qui est faite peut-être aujourd'hui, non seulement elle n'est pas faite par des femmes, mais plus encore, elle n'est pas faite pour les femmes. Tu vois, c'est plus sur ce sujet-là.
Oui, mais moi, comme étant donné que vous parliez de la fabrique de la ville, qui fabrique la ville? Et au profit de qui? Je ne voyais pas ça d'abord à partir du genre, je voyais ça à partir de la division du travail. D'accord. Entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent.
Oui, oui, pour préciser, hein, Jean-Pierre, nous, on a donné la parole à des chercheurs qui se sont exprimés sur des thématiques. On parle évidemment hein, de la démocratie participative, de l'accès au pouvoir, des phénomènes de classe. Mais il y a quand même un fait qui est évident, c'est que la femme n'est pas à sa place dans la ville. Elle n'est pas au poste de responsabilité. Elle a peur, elle est agressée. Et puis un chiffre tout bête par exemple, mais 80% des déplacements en vélo en milieu urbain se font par des hommes. Ça semble anecdotique, hein, mais c'est un premier constat intéressant, je pense.
Alors, vas-y Jean-Pierre.
Oui, là c'est un problème qui n'est pas spécifiquement urbain.
Ça c'est vrai.
À savoir que le règne des, comment dirais-je, de la force masculine n'a pas été remis en cause de manière fondamentale. On s'en tient toujours à des principes généraux, et s'il y a des hommes qui agressent les femmes, ça c'est un phénomène qui ne relève pas de l'urbanisme et de l'aménagement, sauf à faire un urbanisme sécuritaire, où là, on tout serait organisé pour que les femmes puissent circuler sans risquer d'être attaquées. Mais là, il faudrait plutôt s'attaquer aux causes. C'est-à-dire, c'est un problème qui remonte quasiment, ou qui va dans les médias, dans l'éducation scolaire, l'éducation dans les familles, etc. Mais si on raisonne en termes urbains, comme vous le pensez, c'est pas parce qu'on ferait une ville complètement bunkerisée avec des zones finalement qui seraient réservées, on pourrait dire quasiment réservées aux femmes, protégées, on aurait des caméras de vidéosurveillance, il y aurait des gardes et tout ça. Je vois pas exactement, je trouve que c'est pas une bonne, c'est pas ça la solution.
Non, ça
la solution,
clair.
C'est faire plus, en sorte que l'agressivité masculine soit neutralisée dans le cadre éducatif et dans le cadre médiatique.
Je crois qu'on sera tous d'accord là au moins sur ce que tu viens de dire. Mais tu évoquais justement les divisions de classe, on parlait là donc du premier sujet, participer à la ville, et j'entrais par cette porte parce que je pense que c'est pas souvent qu'on parle de sujet, mais effectivement la participation dans la ville, c'est un grand mot, on en parle beaucoup, partout. Je me rappelle à Toulouse d'avoir assisté aux assises de la participation citoyenne, d'avoir participé à des débats où tout le monde était pour la participation, mais concrètement, les décisions prises n'ont pas évolué fondamentalement. Et c'est souvent un peu un miroir. Philippe, qu'est-ce que tu peux me parler un peu sur cette participation?
Oui, oui, évidemment, vaste sujet. Premier chiffre à donner, on est entre les deux tours des élections. 50% des personnes ont voté dimanche à Toulouse. On peut en discuter, on peut dire que c'est une catastrophe, on peut dire que c'est un signal fort. Il se trouve que malgré tous les discours sur l'accès à la citoyenneté, à la démocratie, les gens ne votent plus. Voilà, donc premier point. Seconde chose sur laquelle je pense Jean-Pierre pourra s'exprimer, c'est que au temps d'Athènes ou de Rome, on connaissait les agora et les forums qui fonctionnaient plutôt bien, d'après les écrits qu'on en a. Force est de constater aujourd'hui qu'il est difficile de participer à la vie de la cité via des débats, via des maisons de quartier, via des maisons de citoyenneté. Alors, il se dit qu'à Toulouse, les gens au pouvoir ont entendu des revendications et surtout ce signe absolument extraordinaire de 25% seulement de participation au vote dans les quartiers comme le Mirail ce week-end. Il serait peut-être temps de mettre de nouveaux outils en place.
Jean-Pierre ?
Bon, voilà, on a, avec ce phénomène de l'abstention grandissante, et quand je dis abstention, il faut aussi y ajouter les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales.
Et il y en a beaucoup.
Oui, c'est 12%. Et si on va vers les moins de 30 ans, en âge de voter, on arrive à peu près à 18%. Autrement dit, il y a ce qu'il est convenu d'appeler, du moins à Sciences Po, ce qui n'est pas une référence, mais c'est le terme officiel, une crise de la démocratie représentative. Hein, c'est-à-dire la délégation de pouvoir à des professionnels de la politique, ça ne marche plus comme avant. Ça n'est pas propre à la France. Hein, c'est valable en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, etc. C'est-à-dire que la plupart des gens, notamment dans des classes populaires, savent que, quels que soient les gens pour lesquels ils votent, globalement, ils n'ont pas voix au chapitre, et les grandes décisions, les décisions importantes, par exemple le choix de jouer la carte de la métropolisation pour dans le cadre de la concurrence libre et non faussée entre métropoles françaises, voire entre certaines métropoles françaises et métropoles européennes, tout cela ne les concerne pas. Hein, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et ce qui vient d'en haut, c'est ça le plus beau, c'est qu'en haut, on se rend compte que les gens ne marchent plus. Et alors, on commence à élaborer d'en haut, avec l'aide évidemment de politologues, de sociologues, des mécanismes de participation pour inciter les gens à participer. Or, en fait, l'alternative à la démocratie représentative, c'est pas la démocratie participative, octroyé d'en haut avec des mécanismes qui, plus la décision est importante et moins la participation a d'importance, l'alternative c'est ce qu'on appelle dans certains milieux la démocratie directe. Hein, il y en a d'autres qui parlent d'autogouvernement, vous voyez. C'est-à-dire c'est une remise en cause totale de ce qu'il est devenu appeler la démocratie chez nous, quoi.
Mais comment on mettrait en place, par exemple, ben, je pense un exemple à Toulouse, mais à Grenoble, à Paris, comment on met en place concrètement, là, allons-y, mettons en place une démocratie directe municipale. Comment on mettra en place ça ?
Une démocratie directe municipale supposerait déjà la remise en cause totale des institutions de la Ve République.
D'accord.
Bon, ça veut dire
c'est une petite révolution, quoi.
Situation, ça serait dans une situation comme ça s'est produit dans les périodes, je dirais, insurrectionnelles, révolutionnaires, de soulèvement populaire, où effectivement, les organismes qui décident habituellement, les institutions qui font tourner la boutique, si je peux dire, sont désavouées par la population, mises à l'écart, et que la population est dans une situation d'auto-organisation, de mise en place de mécanismes nouveaux. Je ne vais pas citer quand même la Commune de Paris, mais enfin...
Ah bah, Philippe l'avait cité dans un demi-souffle.
Ouais. Bah, il est bien évident que la mise en place d'une démocratie directe, ça voudrait dire que Vinci, Bouygues ou Eiffage ne feraient plus la loi concernant l'organisation de l'espace. Que les technocrates issus de Polytechnique ou de l'école des ponts ne feraient plus la loi en matière de décision. C'est-à-dire qu'on aurait véritablement un bouleversement réel, mais ça ne serait pas une démocratie dite participative, où c'est par exemple en ce moment le ministre de la Ville qui donne une mission à Madame Marie-Hélène Baquet, sociologue, et puis un leader associatif en voie de notabilisation, le soin de mettre en place des mécanismes sous l'égide d'un ministère. Hein, vous savez, il y a un vieux proverbe, sociologue anarchiste, qui date de la fin du 19e siècle, qui est belge, et c'était « je participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, il décide ». C'est toujours la même chose. Il faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. On a multiplié, bon, l'expression populaire depuis des années. Moi, je suis d'une génération qui est connue déjà, qui a connu l'époque où les partis de gauche, et notamment il y avait un parti qui s'appelait le PSU, le Parti Socialiste Unifié, celui justement dont est issu un maire qui a poussé le plus loin en France la démocratie participative, Hubert Dubedoux, Grenoble, avec les groupes d'action municipaux. Mais il faut bien dire une chose, que l'expression populaire a toujours été instrumentalisée, pour ne pas dire domestiquée, par les municipalités. Alors aujourd'hui, on met en place sans arrêt des nouveaux mécanismes, commissions, là des anciens, commissions extra-municipales, assemblées, réunions citoyennes, à condition que tout le monde donne des avis constructifs, c'est-à-dire qu'on accepte les termes de la question posée, et puis naturellement, il y a toujours des experts qui sont chargés de formuler les questions à la place de la population. Hein, c'est toujours en fait... ce qui est visé, c'est l'acceptabilité des décisions déjà prises, des grandes orientations déjà prises par la population. Et en fait, tout cela relève de la manipulation. D'ailleurs, les mots qui sont utilisés sont très clairs. Très souvent, on voit le mot « dispositif ». Il faut mettre en place des dispositifs participatifs. Il y en a d'autres au ministère de l'Intérieur qui disent qu'il faut mettre en place des dispositifs de maintien de l'ordre. Ça, c'est autre chose, c'est policier. Et là, on a des dispositifs, en fait, qui induisent la bonne volonté et la soumission. C'est-à-dire que les gens qui participent, non pas aux décisions, mais aux mécanismes de participation, c'est le second degré, doivent penser dans le cadre institutionnel et conceptuel mais, où on leur dit de penser.
Mais justement, mais alors là, bah le parallèle était éloquent, mais dans le Mur de Friture, on a justement un article écrit par Marie-Christine Jaillet.
Oui, et je alors... la connais. Elle a travaillé pour l'OTAN jadis aussi, dans le comité des défis majeurs, avec un autre sociologue, pour comment juguler les insurrections dans les métropoles du 21e siècle.
Mais ce qui est intéressant...
Elle est vraiment bien placée oui, pour parler de participation.
Mais justement, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'elle est même à Toulouse actuellement, en plus de toutes les fonctions que tu as énumérées, que je n'avais pas à l'esprit, elle est nommée présidente du Conseil de développement de Toulouse Métropole depuis avril 2013.
Vous avez compris.
Et attends.
Mais
non, attends.
C'est le stade suprême de l'urbanisation.
Mais justement, Jean-Pierre, attends, on va venir à métropolisation juste après. Mais elle-même, qui est donc à ce poste, dit « Il reste à ce que les citoyens puissent exercer un contrôle démocratique sur un échelon, donc elle parle de la métropole, qui, sinon, risque de n'être que technocratique. » Donc, si tu veux, j'ai l'impression que eux-mêmes, ceux qui mettent en place ces structures, en sont conscients.
Alors, je suis parfaitement conscient, mais le rôle des sociologues, je vais citer un autre sociologue, évidemment, il n'est pas de la même orientation que Marilène Baquet ou la géographe Marie-Christine Jaillet, il est chez vous. C'est Mathieu Rigouste.
Oui.
Vous en avez entendu parler.
Ah, bah oui, on le connaît
vous
bien, Toulouse.
Il dit, il écrit dans son dernier ouvrage, La domination policière, de la même manière, c'est Yves Lacoste, un autre géographe, qui avait dit, la géographie, ça sert à faire la guerre. Et lui, il dit, la sociologie, ça sert à contrôler. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ils savent très bien que la métropolisation va être encore un pouvoir encore plus centralisé, où, somme toute, un certain nombre d'aires centrales des grandes agglomérations vont concentrer toutes les fonctions de décision, de direction, de commandement du capitalisme, on peut dire aujourd'hui transnational, parce que c'est plus seulement à l'échelle française, ça veut dire les quartiers généraux, les états-majors des firmes, on va mettre tous les services afférents, juridiques, la publicité, le conseil, les habitants, naturellement l'habitat de standing et de luxe réservé au cadre de la nation, plus les équipements haut de gamme, hein, pour ce qui se distrait, les médiathèques, les opéras, les auditoriums, les salles de colloques, et tout ça, évidemment, va être centralisé dans les aires centrales, avec évidemment des pôles dits d'excellence un peu en périphérie, et bien entendu avec un rejet croissant des couches populaires dans ces périphéries, et bien entendu, il faut faire avaler tout ça à la population. Comment ? Alors, bien entendu, il y a un mépris très net de la part de ces élites. Hein, je parle pas de la bourgeoisie seulement, de la classe dirigeante, mais de ces intermédiaires, de la petite bourgeoisie intellectuelle, de ces élites intellectuelles, qui notamment sont nichées dans tous les organismes de planification, à l'université, dans les centres de recherche, les laboratoires, qui vraiment prennent les gens pour des imbéciles. Les gens savent très bien que tout se fait pas pour eux, et quelquefois contre eux, notamment en matière de ségrégation résidentielle.
Jean-Pierre, je voudrais laisser réagir aussi Philippe sur ce que tu viens de dire, qui est dense et important, mais laisser l'auditeur aussi emmagasiner le tonne d'informations que tu as donné. Donc Philippe, je te laisse répondre, et puis on marquera une petite pause musicale pour décanter tout ce qui a été dit et reprendre en étant bien à l'écoute de toutes ces questions qui sont vachement centrales, parce qu'on n'entend jamais parler. Philippe,
oui,
vas-y.
Oui, donc déjà un petit regret, c'est de ne pas avoir invité Jean-Pierre Garnier à s'exprimer dans le numéro, sauf que nous on fait parler que des gens qui sont sur ce territoire du Grand Sud-Ouest, mais on connaît bien Jean-Pierre Garnier, puisque je pense qu'on va en parler, il avait participé il y a une dizaine d'années à un documentaire qui s'appelait Pas lieu d'être, qui était extrêmement intéressant. Donc juste deux ou trois petites remarques. Je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Pierre sur notamment les phénomènes d'exclusion, etc. Pour ce qui est de l'autogestion, moi je veux bien qu'on remonte à la commune, je veux bien qu'on cite des exemples sur Longomile par exemple, qui sont des expérimentations qui marchent encore, ou pour ce fameux village espagnol. Voilà. Mais bon, je pense que c'est extrêmement difficile à mettre en place. Peut-être faudrait trouver d'autres échelles sur la métropole. Juste une autre petite chose sur l'abstention. Moi, je pense qu'il y aura des leçons à tirer, mais je pense que les politiques vont les tirer. Enfin, on espère toujours de ce taux d'abstention. C'est du jamais vu. Je pense que c'est extrêmement grave, que c'est vraiment extrêmement grave. Et juste un petit point pour citer une personne qui est issue du PSU et qui s'exprime aussi dans nos colonnes. Il s'agit de l'écrivain et chercheur Paul Auriol, qui est de Carcassonne et qui met en avant une chose dont on ne parle pas souvent, c'est le droit de vote des résidents étrangers ou extra-communautaires à ces élections. Je pense que c'est une erreur, une nouvelle de la part du pouvoir de ne pas avoir mis en place ce vote à ces élections-là, parce qu'on le voit très bien, et sans stigmatiser ces quartiers dits populaires, on sait très bien que ces quartiers concentrent des résidents étrangers et très précaires, et ça ne m'étonne pas vraiment qu'il y ait seulement 20 ou 25% des gens qui votent dans ces quartiers-là.
On fait une petite pause musicale, Jean-Pierre, tu restes avec
okay.
nous, et on continue.
Alors, je reste l'oreille au téléphone.
Voilà, hein. Tu vas étendre la petite chanson, et puis on revient après sur la métropole, et que faire contre elle. A tout de suite sur Canal Sud, on s'écoute, Les Malpolis, ma ville est la plus belle des villes, c'est aussi dans le numéro de Friture, pour aussi arrêter avec ce petit chauvinisme toulousain qu'on a tendance à parfois faire.
Souvenir nous attache à ces lieux. Ok, mais nostalgie à part, explique-moi un peu. Quel mérite et quelle fierté peut-on donc avoir à être né quelque part et non pas autre part. Quand on raconte sans honte qu'on vient d'un pays de cons, ne supportant pas qu'on ne parle pas un peu de chez eux. Y'a des gens qui se vexent et nous pointent de l'index, nous disent non, non, c'est chez nous qu'on est les plus cons. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains. Ma ville est la plus belle des villes, la plus belle des villes, la plus belle. C'est une cité bigarrée, blanc, jaune et noir sont mélangés. Mais on s'est arrangé pour qu'ils se partagent qu'un seul quartier. Ici la démocratie est dans la rue, je te jure. Même si ça fait 20 ans qu'à la mairie y'a la même enflure. La même enflure. Que de jolies rues, de petits trottoirs dans ma ville. Chacun sa voiture, sa bagnole, son automobile. Tout le monde plaisante, cool, sympathique. Voyez comme sont mignons les petits commerçants et leurs flics. Quelle chance, quel bonheur d'être né dans cette ville. La culture rayonne sur un bon paquet d'imbéciles. L'économie est florissante grâce aux industries polluantes. Mais comme sacré du turbin, tout le monde applaudit dès demain. C'est la joie dans ma ville, la joie de vivre tranquille. On boit de l'alcool,
oh, on joue au football.
Ben tu parles d'un particularisme régional. Pour les causes, si c'est ça, moi je me jette dans le canal. Comment peut-on confondre à ce point.